Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Dans la vraie vie, la narcolepsie est un handicap lourd pour ceux et celles qui en souffrent. Difficulté pour travailler, bien sûr, difficulté pour conduire, prise de poids, irritabilité, perte de confiance en soi, stigmatisation, sans parler des difficultés de diagnostic. Bref, la vie des narcoleptiques est tout sauf un long fleuve tranquille. Ces 20 dernières années, les traitements ont heureusement progressé et ils viennent justement de faire un pas de géant grâce à une nouvelle molécule. On en parle tout de suite avec notre invité, Yves Devilliers, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue spécialiste du sommeil au CHU, chercheur à l'Institut des neurosciences de Montpellier et coordinateur des quatre sens de référence sur la narcolepsie, c'est bien ça ?
C'est ça, merci de m'ouvrir l'invitation.
Merci à vous. Alors avant de commencer l'interview, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces centres que vous coordonnez, ces quatre centres sur les narcolepsies ?
Oui, donc l'organisation du système de soins pour les maladies rares est très bien organisée en France, on a cette chance. Et donc, ils labellisent des centres de référence pour avoir plus de connaissances et mieux s'occuper des patients, mieux les comprendre les diagnostics, l'évolution et la prise en charge. Donc, le centre de référence national, c'est à Montpellier. Et il y a un autre centre à Paris, enfin deux autres centres à Paris pour enfants adultes, un à Bordeaux et un à Lyon. Mais c'est moi qui coordonne ces centres pour le côté aussi recherche, innovation et d'abord mieux diagnostiquer ces patients.
Donc on a la chance d'avoir aujourd'hui en studio le monsieur narcolepsie de France. Quoi. Alors, elle en est à son quatrième café de la journée, pardon. Elle semble bien éveillée. Avec moi pour mener cette interview, la journaliste Aline Perriot. Bonjour Aline.
Bonjour tout le monde.
Notre invité de dernière minute sera Patrick Lemaire. Il nous parle d'une exposition qui s'ouvrira au Jardin des Plantes ce vendredi 29 septembre. Elle s'intitule « Science en images, la vie est belle ». Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54...
Alors Yves Devilliers, on associe tous la narcolepsie au fait de ne pas pouvoir résister au sommeil, mais ce n'est pas le seul symptôme de cette maladie. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu cette ou ces maladies puisqu'on utilise narcolepsie avec un S ?
Oui, donc la somnolence est un symptôme très fréquent en population générale. Tout le monde est somnolent à 14 heures quand on est inactif et quand il est 23 heures le soir et qu'on s'est réveillé à 7 heures le matin, on est somnolent. Donc c'est un symptôme banalisé parce que fréquent. Mais quand il est excessif, il est sévère, on dort n'importe quand, sans prodrome, c'est-à-dire sans le ressentir avant, et on dort 5 minutes, 10 minutes, mais 5 fois, 6 fois, 8 fois par jour, en pleine activité. C'est très gênant, c'est très handicapant, on ne peut pas conduire, on ne peut pas suivre un cours. Alors quand on est très actif, on ne va pas dormir, mais quand on est en inactivité, on va dormir. Et ça, il y a X maladies qui peuvent le donner, mais la maladie la plus sévère de la somnolence chez l'homme, c'est la narcolepsie. Alors il y a deux types de narcolepsie, effectivement. Il y a le type 1 et le type 2. On y reviendra après, parce que c'est très important pour la cause de ces maladies. Et il y a un autre symptôme majeur, qui sont les cataplexies. Donc c'est perdre sa force musculaire quand on rit. On a une expression classique dans la langue française. Quand on a une joie, une surprise, on a les jambes qui lâchent, d'accord, hein, j'ai les jambes coupées, ou les bras m'en tombent. C'est des expressions assez classiques. Mais là, c'est ça un petit peu, mais en extrême. C'est que les gens vont perdre leur force, parfois jusqu'à tomber, mais c'est quand même rare, mais c'est au niveau de la mâchoire, au niveau des muscles de la nuque, et il y aura une perte de cette force musculaire. Et quand on a cette somnolence, donc des accès de courte durée en rêvant, j'ai oublié de le dire, et au bout de 10 minutes, on se réveille, on est en pleine forme, mais 2 heures après, il y aura un nouvel accès
de
sommeil.
Et on ne voit pas arriver le sommeil ?
On ne voit pas arriver, ça arrive d'un coup. Mais donc, c'est des accès de sommeil brefs, rafraîchissants, donc les gens sont en forme après, et ils rêvent, et quand ils ont une émotion forte, ils ont ces cataplexies. Et les cataplexies, c'est de la narcolepsie de type 1, alors que la forme sans cataplexie, c'est de la narcolepsie de type 2. Après, il y a d'autres symptômes, mais ils ne sont pas forcément indispensables pour le diagnostic, mais on dort mal la nuit, on a un surpoids, on a des hallucinations, puisqu'on s'endort en rêvant, donc on a un récit de rêve quand on est éveillé. On peut avoir des paralysies de sommeil aussi, c'est assez effrayant, les gens sont éveillés, ils ne peuvent pas bouger, parce qu'ils sont en sommeil paradoxal, le sommeil du rêve, et pourtant ils sont éveillés, et donc ils ont une impression de mort imminente, parce qu'ils disent, mais comment je vais faire si je ne peux plus bouger, si je suis paralysé toute ma vie? Donc il y a plein d'autres symptômes, mais il faut d'abord se concentrer sur la somnolence.
Et les causes, justement, vous l'avez évoqué, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui provoque là où les narcolepsies chez les patients?
Donc on a fait des avancées majeures dans ces maladies, hein. C'est pour ça qu'il y a des centres de référence pour mieux diagnostiquer, mieux suivre, mieux traiter. Et la narcolepsie de type 1, on sait maintenant depuis une vingtaine d'années que c'est lié à une carence de 80 000 neurones dans le cerveau. Je vous rappelle qu'on a 100 milliards de neurones dans le cerveau, et 80 000 dans la partie latéro-dorsale de l'hypothalamus, donc une toute petite région très profonde dans le cerveau, il y a 80 000 neurones qui ne fonctionnent plus.
Quand vous parlez d'une carence, c'est-à-dire qu'ils se détruisent au fur et à mesure, ils ne fonctionnent plus au fur et à mesure, ou dès le départ, ils ne fonctionnent pas?
Très bonne question. Donc, on ne naît pas narcoleptique. Donc, c'est au fur et à mesure, comme vous dites, après un facteur déclenchant. Donc, c'est une maladie auto-immune. On va détruire ses propres neurones, comme les maladies auto-immunes classiques, connues comme le lupus, par exemple. Et donc, on va auto-réagir, reconnaître ces neurones hypocrétines comme du non-soi, d'accord? Et si c'est du non-soi, comme un agent bactérien, viral, on va vouloir le détruire. Et malheureusement, c'est ce qui se passe, hein, c'est un mimétisme qui se fait, où les gens, notre système immunitaire reconnaît une bactérie, un virus, comme du non-soi, le détruit, et en même temps, il y a ce mimétisme où il y a la même chose qui est sur la membrane des neurones à hypocrétine et qui va les détruire. Et donc, il n'y a plus d'hypocrétine.
Alors, justement, on peut doser. Cette hypocrétine, elle sert à quoi?
Alors, c'est une découverte absolument géniale parce que c'est grâce à la narcolepsie que l'on a pu mettre en évidence ce neurotransmetteur. C'est ça qui est absolument génial. En connaissant mieux les maladies, on peut comprendre comment la physiologie se passe et pas que la pathologie. Donc, cette hypocrétine, elle sert à l'éveil majeur, à la régulation des émotions, à la régulation du comportement alimentaire, le métabolisme, c'est pour ça qu'ils prennent du poids. Ça joue aussi sur le côté moral, sur le côté prise de décision. Donc c'est absolument majeur parce que c'est une petite glande, mais qui va se répercuter, projeter sur plein de régions dans le cerveau. Donc les conséquences sont absolument majeures. Et donc il y a une forme, par contre, la narcolepsie de type 2, où il y a moins de liens avec l'hypocrétine, justement, et on connaît moins bien cette maladie. C'est très important de mesurer cette hypocrétine. Il faut faire une ponction lombaire, mais on le fait en routine. C'est pas très compliqué maintenant de le faire. On n'arrive pas à le mesurer dans le sang. Et si on a des taux bas d'hypocrétine, on va avoir cette maladie à vie, parce que les neurones ne vont pas se régénérer. Si maintenant on a une narcolepsie avec des taux d'hypocrétine normaux, c'est très favorable. Ça veut dire qu'on a une chance que ça devienne réversible. Quand on a une maladie, on ne l'a pas forcément à vie. Donc c'est très important.
Ce n'est pas forcément irréversible, la narcolepsie.
La narcolepsie orexine déficiente, ou hypocrétine, je ne l'ai pas dit, mais c'est le même nom pour la même protéine, le même peptide dans le cerveau. Mais si c'est bas, ça ne reviendra pas. Si c'est normal, on a une chance d'évoluer favorablement. Oui.
Alors justement, on va rentrer un peu plus dans la nouvelle étude que vous avez publiée, celle dont on va parler maintenant. C'est un nouveau traitement que vous avez développé qui est un agoniste des récepteurs 2 de l'orexine ou de l'hypocrétine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un agoniste? Quel est le principe de cette molécule?
Oui, donc c'est une découverte majeure. J'ai parlé de l'hypocrétine et de l'orexine, mais il y a deux types de récepteurs qui sont diffusés un petit peu dans des endroits stratégiques dans le cerveau. On ne peut pas donner de l'hypocrétine aux gens, ou de l'orexine, encore une fois, parce que ça ne passe pas la barrière entre le sang et le cerveau, c'est trop gros, et donc ça ne passe pas. Ça, c'est dégradé au niveau de l'estomac, et ça, on ne le mesure pas dans le sang, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a dérivé le système, et on stimule les récepteurs 1 et 2, exactement comme une clé dans une serrure. On met une clé, et elle ouvre la serrure. Ce n'est pas la bonne clé, ok, mais c'est pareil, ça fait le même rôle. Et donc, on stimule que le récepteur 2, à des endroits différents dans le cerveau, pas le récepteur 1, parce que ça serait trop toxique, il y aurait trop d'effets secondaires au niveau de l'addiction, au niveau de la tension artérielle, au niveau de la locomotion. Donc on est très ciblé, donc c'est vraiment une médecine de précision, une médecine ciblée, et on arrive à stimuler le récepteur avec une durée donnée, une fréquence donnée, une intensité donnée.
Vous êtes sur Divergence FM et vous écoutez le best-of d'Allume la science.
Alors Laurent Soligny, vous évoquez dans ce livre le parcours de quatre jeunes sous main de justice, Lola, Lucas, Jason et Rémi. Pour commencer, cette expression sous main de justice, elle interpelle, qu'est-ce qu'elle signifie?
Eh bien, en fait, sous main justice, cela veut dire que les mineurs qui ont commis des délits ou des crimes, et qui sont donc ces délits et crimes connus par les services de justice, sont mis sous main de justice en cela que les délits et les crimes vont être jugés donc par un juge des enfants, magistrat, magistrate. Et à partir de là, il va y avoir un certain nombre de dispositifs qui vont être mis en place pour pallier à ces délits et à ces crimes, donc différents placements possibles, différents travaux d'intérêt général par exemple, il y a différentes sanctions liées à la gravité des délits ou des crimes commis.
Alors, le terrain qui vous sert de base pour écrire cet ouvrage, vous l'avez réalisé entre 2018 et 2020 dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Déjà en 2008-2009, vous aviez réalisé un premier terrain en EPM, celui dont on parle dans l'article publié dans le magazine LUM. Ces EPM, établissements pénitentiaires pour mineurs, ils ont été créés en 2007. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quel projet ça a structuré à ce moment-là?
Oui, alors en 2007, en fait, ce qu'il se passe, ils sont sortis de terre en 2007, mais la loi d'orientation et de programmation pour la justice qui les rend actifs, en quelque sorte, date de 2002. Et l'objectif, c'était de pallier à l'incarcération des mineurs telle qu'elle était effective jusque-là, à savoir que les mineurs incarcérés étaient incarcérés donc dans des quartiers mineurs, ce qu'on appelle des QM, qui sont généralement des ailes réservées aux mineurs dans des maisons d'arrêt adultes, majeures. Ça impliquait un certain nombre de difficultés. En tout cas, ces difficultés étaient énoncées comme telles par le ministère de la Justice, à savoir que, dans un premier temps, la protection judiciaire de la jeunesse, donc PJJ, qui est en charge du suivi de ces mineurs et de leur possible réinsertion, n'avait pas une place pérenne à l'intérieur des quartiers mineurs, tout simplement parce que ces quartiers mineurs, structurellement, n'étaient pas adaptés aux mineurs. C'est-à-dire que ce sont vraiment des maisons d'arrêt où, à un moment donné, on a cloisonné une aile, un couloir, pour être clair, généralement, à l'intérieur duquel on a dit « bon, là, on va pouvoir placer 5 à 10 mineurs incarcérés ». Mais le projet n'était pas réalisé en amont, c'est-à-dire qu'on n'a pas pensé l'incarcération des mineurs en amont dans ces quartiers mineurs. C'est vraiment après coup qu'on s'est dit « bon, dans cette maison d'arrêt, on va structurer une aile, un couloir plutôt, et on va pouvoir y mettre ici un certain nombre de mineurs incarcérés », ce qui fait que la protection judiciaire de la jeunesse n'a pas une place pérenne à l'intérieur. C'est l'administration pénitentiaire qui est en charge de ces quartiers mineurs. Donc ça, c'était un premier problème, en cela que le suivi des mineurs en incarcération était un suivi discontinu, difficile. Ça obligeait les éducatrices et les éducateurs à aller en prison, à prendre rendez-vous, et cela était assez complexe, en fait, pour les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse. Autre chose, l'autre élément qui était donné à la justification de la constitution de ces EPM, c'est de dire que le fait d'avoir des mineurs en quartier mineur, ça construisait des croisements avec les majeurs. C'est-à-dire que bien que les mineurs et les majeurs n'ont pas le droit de se croiser, dans les faits, c'était très très compliqué de rendre complètement hermétique un couloir, une aile, uniquement pour les mineurs, dans la mesure où, rien que par les fenêtres, par exemple, il y avait la possibilité d'échanger, et que les échanges allaient parfois bien au-delà de simples discussions par les fenêtres. Donc ces deux éléments-là ont amené la constitution de ces prisons pour mineurs uniquement pour les mineurs, et le projet de ces EPM est donc, enfin en tout cas il est présenté comme ça, hein, c'est la réinsertion, l'éducation, parfois il y a les termes de resocialisation ou de rééducation qui sont également employés à l'intérieur de la prison. Et la question qui se pose, c'est est-ce que vraiment il y a une possibilité éducative en prison? La réponse a été de dire oui, mais on incarcère vos jeunes, mais on les incarcère bien. C'est souvent des propos qui ont été repris. Comment fait-on pour éduquer en prison? Eh bien, on tente de recréer à l'intérieur des murs la vie hors les murs. Ce qui fait qu'on a une forme de succès d'année ou d'ersatz de la vie ordinaire d'un adolescent à l'intérieur des EPM. Et de ce point de vue-là, donc le projet EPM est censé être capable de mettre en activité constante les jeunes pour leur réinsertion, pour leur éducation. Et la protection judiciaire de la jeunesse a vocation à être pérenne à l'intérieur de ces établissements pénitentiaires pour mineurs. Voilà.
Alors, à côté de ces EPM, il existe des unités à encadrement éducatif renforcé, créées en 1996, des centres éducatifs renforcés, les CER, puis des CEF, centres éducatifs fermés en 2003. Il y a les QM dont vous avez parlé. Vous parlez d'un maillage qui fonctionne comme un réseau d'institutions dont la clé de voûte est le déplacement des jeunes, ce dont on veut parler aujourd'hui. Alors, ces jeunes, comment on les déplace? Pourquoi on les déplace? Sur quels critères?
Alors, les placements, déplacements, replacements se font effectivement, comme vous le dites, à partir d'un maillage complexe. C'est-à-dire que, en fait, depuis plus d'une dizaine d'années, on crée de plus en plus d'institutions, centres éducatifs fermés, EPM, les QM sont toujours existants, sans, comme vous l'avez dit, centres éducatifs renforcés, plus tout le placement en milieu ouvert. Et il se trouve que ces jeunes, quand on reprend leur parcours, ils sont éminemment déplacés tout le long de ce maillage institutionnel. Et ce qu'on montre dans l'ouvrage, c'est que malgré le fait qu'il y ait des prérequis au déplacement, c'est-à-dire qu'il y a quand même des impératifs, normalement, qui devraient être des impératifs plutôt liés soit aux problématiques familiales, c'est-à-dire possiblement de ne pas trop écarter le jeune de sa famille, possibilité aussi d'intégration dans des lieux de stage, dans des lieux professionnels qui sont assez peu éloignés de son lieu de vie. En fait, il se trouve que ces jeunes sont déplacés parfois de manière assez distanciée de leur lieu d'habitation. Et les justifications que l'on trouve, notamment dans les dossiers de suivi judiciaire, sont la plupart du temps comportementalistes. C'est-à-dire qu'à partir du comportement de ces jeunes, à partir de l'évaluation et de leur comportement et de ce qui est nommé leur dangerosité, eh bien, on va les déplacer sur une échelle d'institutions qui n'ont pas toutes la même valeur en termes de contraintes. C'est-à-dire que, effectivement, on va possiblement d'abord les placer, déplacer dans les milieux ouverts, donc dans les foyers, dans les espaces dits les familles d'accueil, les tiers de confiance, etc., possiblement. Et puis, en fonction des actes commis ou d'autres actes qui vont survenir à l'issue du placement, on va augmenter, pour ainsi dire, la peine de placement. C'est-à-dire qu'on va possiblement les mettre dans des espaces plus fermés, centres éducatifs fermés, par exemple. Et s'il y a fugue ou problématique comportementale, incident, par exemple, à l'intérieur, on va passer dans le domaine pénitentiaire. Passage en établissement pénitentiaire pour mineurs. Et si en établissement pénitentiaire, il y a encore des problèmes, on peut basculer en quartier mineur, qui est considéré comme la peine par excellence, puisque c'est censé être la vraie prison. En tout cas, c'est comme ça que les professionnels souvent la représentent, puisqu'on est sur, comme je l'ai dit, un morceau de maison d'arrêt classique.
Alors, parmi les quatre jeunes dont on lit les portraits dans votre livre, il y en a trois qui ont connu de nombreux déplacements entre institutions, mais aussi au sein même de l'institution dans laquelle ils étaient déjà, à travers ce que vous appelez les régimes différenciés. Vous pouvez nous en dire quelques mots de ces régimes?
Oui, alors ce terme-là, il ne vient pas de nous. Hein. C'est comme ça qu'on les appelle effectivement dans l'institution et notamment l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple de l'EPM, à l'intérieur de l'EPM, il y a des petits pavillons, des unités de vie dans lesquelles il y a les cellules et dans lesquelles sont donc incarcérés, enfermés les jeunes. Et les unités de vie ont des régimes différents. Ces régimes, en fait, sont des régimes qui vont du plus ouvert au plus fermé. Là où ça varie, c'est notamment, par exemple, tous les temps collectifs dits informels, petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, étant, on va dire, espace collectif après le dîner, avant le coucher en cellule, eh bien, dans le régime le plus ouvert, ils sont tous pris en collectif. Donc, dans des espaces dédiés à cet effet, voilà, des espaces de sociabilité, les unités de vie sont en prison, mais correspondent parfois dans la structure à des mini-foyers, donc il y a un baby-foot, il y a un espace de sociabilité, il y a une cuisine, et donc tout ça, les jeunes peuvent en jouir comme ils l'entendent dans ce régime ouvert, Et plus leur comportement est délictueux, plus il y a d'incidents et plus on les bascule d'une unité à l'autre jusqu'à l'unité la plus fermée où là, aucun des repas n'est pris en collectif, tout est pris en cellules, cellules individuelles, donc hein, en EPM, je le précise, et il n'y a pas de temps laissé au loisir, c'est pas le terme qui convient, mais de laisser à la sociabilité hors cellule, puisque... tous les repas sont pris en cellule et qu'il n'y a pas de sortie de cellule possible, si ce n'est pour les activités.
Vous êtes sur Divergence FM et vous écoutez le best-of d'Allume la Science.
Alors, on va commencer par un constat, celui du manque d'eau dont on a parlé dans l'introduction et dont on commence à prendre sérieusement conscience en France. Donc, au niveau mondial, quelle est l'activité la plus gourmande en eau et éventuellement en France aussi, Vincent Moulia?
Alors, l'activité la plus gourmande en eau, ça serait plutôt l'agriculture. Donc en France, on utilise à peu près 50% de l'eau pour l'agriculture. Et dans le monde, c'est une moyenne qui est aux alentours de 70%.
D'accord, donc oui, c'est vraiment un poste énorme.
Voilà.
Alors Lucie, elle en a parlé dans son intro. Il y a ce nouveau décret qui est entré en vigueur le 30 août et qui va permettre justement d'assouplir les règles de réutilisation des eaux usées en fonction des usages. Donc concrètement, est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre les eaux usées traitées et l'eau du robinet? Marc Errant peut-être.
Et je vais juste rajouter un truc. J'ai pas dit pour l'instant l'irrigation, elle se fait avec quoi comme type d'eau justement? Parmi toutes ces eaux, qu'est-ce qu'on utilise? J'ai pas...
Voilà, donc effectivement, on a différentes qualités d'eau et derrière une qualité d'eau, on va lui associer un usage. Donc l'eau du robinet, bah, c'est une eau qui répond à 64 critères, qui est analysée en continu. Donc c'est une eau qui mettra, que vous pouvez boire en toute sérénité, surtout en France. Hein, c'est vrai que dans certains pays, il faut éviter de la boire parce qu'on a une qualité bactériologique irréprochable. Donc on ne risque pas de tomber malade par la maladie qui va arriver le plus rapidement possible. Hein, c'est la gastro-entérique, c'est des maladies gastriques. Hein, y a beaucoup de maladies qui sont portées par l'eau. Donc l'eau du robinet, c'est une eau que vous pouvez boire en toute sérénité, surtout chez nous. Ensuite, on a les eaux usées traitées, c'est-à-dire que l'eau, elle arrive fraîche et chlorée à l'aube de nos robinets et elle repart souillée au fond de nos éviers. Et donc les eaux usées traitées, bah, c'est tout ce qu'on rejette d'une habitation. Hein, donc c'est vrai que nous, on va parler d'eau grise, salle de bain, cuisine, on va parler d'eau noire, fesses, et on va parler d'eau jaune, tout ce qui urine. Et aujourd'hui, tous ces différents flux sont mélangés et on les évacue loin des villes. Hein, on est sur des concepts hygiénistes qui datent du siècle dernier, où les eaux usées étaient sales, il faut les évacuer loin de nos villes et bien sûr les traiter avant le rejet naturel. Hein, donc là, on a des eaux usées brutes hein, qui sortent de l'habitat. Et ensuite, on a une station d'épuration. Hein, donc aujourd'hui, quasiment tous les villages disposent de leur station d'épuration. Hein, donc on a différentes typologies. L'objectif de la station d'épuration, c'est de répondre aux normes de rejet. Donc on a des rejets sur la matière organique. Hein, donc on a des normes sur la demande chimique en oxygène. On doit être inférieur à 125 mg par litre. Sur la demande biologique en oxygène, on a aussi des rejets sur les nutriments, l'azote et le phosphore, pour éviter d'avoir derrière une eutrophisation. Mmh. Et c'est vrai que ces normes de rejet et le fait qu'en Languedoc-Roussillon, on est beaucoup investi sur les stations d'épuration, eh bien on a beaucoup limité la malègue qu'on appelle ici chez
dont
nous,
on a parlé,
dont les étangs, les étangs, il y a des
qui
nutriments.
Les eaux très vertes.
Voilà, il y a des nutriments, de l'azote et du phosphore. Les algues se développent et à un moment donné, bah, le sol ne peut plus passer, les algues décantent, ça fermente, c'est des procès anaérobies, ça sent mauvais.
D'accord. Et donc, pour revenir pour l'instant, qu'est-ce qu'on utilise pour arroser les champs concrètement?
Vous l'avez dit en préambule, hein, 1% des eaux usées sont retraitées.
D'accord.
Donc, on utilise des eaux ou des eaux souterraines ou des eaux de surface.
Ah, hein, donc on va puiser directement dans la nappe.
Quoi. Voilà, dans la ressource, tout à fait. Et quand on n'a pas de ressources, on crée des bassines, mais ça pose aussi la problématique qu'on connaît.
Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail de votre étude que vous avez donc menée à Murviel et Montpellier, où vous disposez d'une serre au sein même de la station d'épuration. Vous avez donc arrosé des salades avec différents types d'eau usée. Mais pour commencer, Vincent Moulia, est-ce que vous pouvez nous expliquer au départ, c'était quoi le but de cette étude?
Alors, le but de cette étude, c'était de comprendre quel était l'impact sur les communautés bactériennes du sol directement, d'aller chercher des indicateurs de bonne santé du sol, mais également des indicateurs un peu plus négatifs pour le sol et potentiellement des micro-organismes pathogènes, pour rester général.
Mais est-ce qu'il y a des risques spécifiques à l'utilisation donc, d'eau usée, on va dire humaine ? On sait qu'on utilise notamment du purin, du lisier, des produits d'origine animaux dans les champs. Donc pourquoi et quelle différence avec le fait d'utiliser quels risques supplémentaires, s'il y en a ?
Alors, comme le disait Marc, le risque, c'est certaines bactéries qui sont contenues dans ces eaux usées. Donc, on a certains indicateurs qui, ça sera les usagers agricoles qui pourront être exposés à ce risque-là sanitaire.
D'accord.
Donc, il y a quelques précautions à prendre.
Alors, je vais revenir un peu plus précisément sur le protocole. Donc, il y avait 8 laitues qui ont été arrosées avec 4 catégories d'eau. Je les liste, après vous me décrirez de quoi il s'agissait. L'eau usée municipale, les eaux usées municipales traitées avec zone humide artificielle aérée, les eaux usées municipales avec bioréacteurs traitées avec bioréacteurs à membrane et l'eau du robinet. Qui est-ce qui souhaite me décrire les traitements qu'ont subi ces différentes catégories d'eau ?
Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu la démarche scientifique. Aujourd'hui, la réutilisation est encadrée, il y a des textes de loi, et c'est vrai que ces textes de loi, ils sont essentiellement basés sur un risque sanitaire. Donc on va se poser la question, est-ce que l'utilisateur peut tomber malade en utilisant les eaux usées traitées ? Donc on a tout un texte de loi qui est basé sur les risques sanitaires, et c'est des choses qui sont assez difficiles à mesurer, du moins qui coûtent cher à mesurer. Hein, donc je ne vais pas les reprendre, mais on a un indicateur de bactéries globales, on a un indicateur de bactéries fécales, on va chercher des virus, on va chercher des bactéries sporulées. Et du coup, il faut faire des mesures, il faut faire des analyses régulièrement. Donc quand on fait de la réutilisation des eaux usées traitées en France, en fonction des usages, on doit faire un certain nombre d'analyses. Et aujourd'hui, ça pénalise la réuse, parce qu'il y a des analyses. Bon, bien sûr, en amont, il faut faire une demande d'autorisation. Souvent, ça prend 1 an, 2 ans. Il faut le financer et ensuite, il faut faire les analyses. Donc ça le pénalise. Et en contrepartie, on a beaucoup de ressources en eau. La France, par rapport à d'autres pays, hein, par rapport à l'Italie, par rapport à l'Espagne, on a nos grands fleuves. Donc c'est beaucoup plus facile de prélever dans le fleuve et d'utiliser cette eau-là. Donc nous, la question qu'on s'est posée, voilà, le risque sanitaire, on le maîtrise. On sait des choses qui sont dans les textes de loi. On est capable de mesurer les choses, on est capable de le quantifier. Nous, on s'est posé une autre question scientifique. La question scientifique qu'on s'est posée, c'est est-ce que le retour de nos déchets anthropiques, hein, de notre activité humaine, va être nuisible à la vie du sol ? Donc on s'est posé la question du devenir, de l'évolution de cette vie du sol face à nos rejets anthropiques. Donc c'est pour ça qu'on a fait on a fait 4 qualités d'eau différentes. Une qualité d'eau où on a pris directement des eaux usées. Hein, donc là, on a vraiment noirci le trait. On met tout, donc la matière organique, les bactéries anthropiques, les nutriments, on met tout et on regarde comment le sol se comporte. Ensuite, on a pris une eau classique, hein, c'est-à-dire que le traitement que vous avez décrit sur la station de Murviel, donc une eau usée traitée classique, on regarde ce qui se passe. Ensuite, on a enlevé toute la bactérie, hein, donc on a mis une membrane, donc là on enlève toutes les bactéries anthropiques et toutes les bactéries de l'épuration. Donc on ne met plus que des nutriments et on regarde comment le sol se comporte. Et bien sûr, on a des témoins. Donc c'est la quatrième qualité d'eau. Donc on a fait une qualité d'eau graduelle. Et derrière, je vais laisser Vincent parler un peu du suivi qu'il a fait.
Alors on va parler des outils que vous avez utilisés. Alors d'abord, vous avez arrosé pendant 84 jours. Pourquoi 84 ?
Mais 84 jours, ça correspond à deux cycles de salade. Tout simplement avec l'espèce de salade qu'on a utilisée.
C'est bien, comme ça on apprend qu'il faut 42 jours pour une salade, je ne savais pas. Alors vous avez regardé l'impact de ces différentes sortes d'eau donc sur la vie du sol. Comment vous avez procédé ? Vous parlez de PCR quantitatif, pardon. Qu'est-ce que c'est ?
Alors oui, les PCR quantitatives, en fait, ça nous permet de cibler vraiment des groupes de micro-organismes et de les quantifier dans le sol. Ça nous permet de savoir comment la biomasse du sol va réagir face aux perturbations qu'on va leur apporter par les qualités d'eau qu'on utilise. Et ça peut être un indicateur potentiel de l'activité du sol. Donc, quand je parlais d'indicateur de bonne santé du sol, le sol en bonne santé peut répondre à ces intrants en transformant ces composés qu'on apporte.
Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Vous êtes sur Divergence FM et vous écoutez le best-of d'Allume la Science.